10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Speak Uni pour spiritualité, culture et harmonie. Bienvenue sur Beurre FM, bon week-end. Bonjour Yacine.
Bonjour à tous.
Voilà, c'est
toujours en période de grève.
C'est vrai, et comme l'émission est enregistrée, nous enregistrons au moment le plus dur de la grève, donc c'était compliqué d'arriver jusqu'ici.
C'était dur, oui. Mais pas de souci, on va se relaxer avec Speak Uni en mode détente avec nos amis.
Surtout avec un sujet détente. Hein.
C'est vrai que là, on est samedi, Philippe, et moi je suis en Algérie.
Oui, c'est vrai. Oui.
Ça, bon, c'est donc, la magie du
non-direct. Alors, l'imam Abdelali Mamoun est là, vous l'avez entendu. Et puis, notre invité s'appelle Misgav Harpeled. Bonjour. Bienvenue, vous êtes historien et vous avez coécrit un livre qui s'appelle « Faut-il manger du jambon pour être français ?» chez Hermann, que vous avez donc coécrit avec David Nadjari.
C'est vrai.
Alors, on va voir tous les mots qu'on a appris en préparant cette émission. Et le premier mot, Yacine,
c'est un mot d'intello, donc que tout le monde connaît sûrement. Tout le monde doit connaître ce mot, c'est anthropémie. Est-ce que ça vous parle ?
Anthropémie, moi, c'est la première fois que je l'entends aujourd'hui. On va peut-être laisser notre historien parler de ce mot.
C'est dans ces cas-là, on passe le bébé, tu sais, on regarde le nouveau, l'historien.
Bon, je crois qu'au-delà des termes compliqués, ce qui est important, c'est qu'on prend la notion, c'est une métaphore. Or, c'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss qui a lancé l'idée qu'on peut diviser la société dans la manière qu'il traite l'étrangère entre deux types de sociétés, trois types de stratégies vis-à-vis l'étrangère. Or, la société anthropophage, c'était qui avale, dévore l'étrangère et donc digère l'étrangère. L'étrangère devient de cette manière une partie de leur corps imaginaire. Et la société anthropoémie qui vomit l'étrangère, qui les exclut.
Oui, pour résumer, c'est un mot qui est utilisé pour stigmatiser le comportement d'une société qui écarte des individus. À partir du moment où on est dans une société qui va écarter des individus à cause d'un
comportement
d'une habitude, d'une tradition, d'une culture, et ben à ce moment-là...
Un petit peu comme les identitaires aujourd'hui ou la riposte laïque qui s'opposent à l'arrivée de cette nouvelle culture musulmane en France, et voire même à l'époque, encore il y a un siècle, quand on parlait du capitaine Dreyfus et quand on parlait d'antisémitisme, bon, on continue à en parler, hein, c'est sûr qu'il y a toujours l'antisémitisme, mais avant c'était très marqué, beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui, c'est clair.
Alors, deuxième mot, Yacine.
Alors, le deuxième, où il y a plusieurs mots c'est qu'on utilise souvent, et d'ailleurs c'est le titre, il est cité dans le titre du livre, c'est le mot khanzir et halouf, et khazir aussi en hébreu, qui est aussi... on voit qu'il y a des racines similaires.
Ah, c'est Khazir ou Khizir ?
Khazir.
Khazir. D'accord. Alors, le mot Khinzir est le terme coranique, hein, qui est cité dans le Coran pour parler du cochon. C'est-à-dire cet animal que l'on connaît, rose, là, qui est élevé dans une porcherie et qui est élevé pour sa chair, donc pour être consommé. C'est un animal domestique. Alors que le Halouf, c'est la même race, sauf que lui, il est poilu. Il est plutôt de couleur grise, hein, ou noire. Et celui-là est plutôt sauvage, que l'on trouve dans les bois et que l'on va chasser avec un fusil de chasse, par exemple. C'est le halouf. Donc c'est ce halouf-là que l'on va trouver, qu'on appelle le sanglier. Et pourquoi Dieu, dans le Coran, en tout cas, nous les musulmans, on entend ce terme qui est le seul... Il a bien fait de nous le dire, monsieur l'historien, et j'ai bien vérifié dans ma tête, après faire une lecture, qu'effectivement, il a raison. Le seul animal domestique dont la chair a été proscrite dans le Coran, c'est le porc. Voilà.
Alors, on en parlera après, hein, des interdits. Un autre mot, Yacine ?
Bah écoutez, c'était les trois mots qu'on avait.
D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on confond halouf avec le porc.
Non, tout simplement parce que dans le...
Si c'est le sanglier, c'est pas pareil.
Le mot halouf, c'est un mot qui nous a été importé du Maghreb, en France... par les Maghrébins. Ils sont venus ici, ils ont commencé à parler de halouf. Pourquoi ? Parce que là-bas, personne n'élève le cochon, à part les Français, à part les colons qui élevaient le porc. Mais c'était surtout les Arabes qui allaient chasser le halouf dans les bois ou dans la dans la bédia qu'on appelle la campagne. Et cet animal-là qu'ils allaient chasser, ils l'appelaient halouf, et c'était du sanglier. C'était pas du cochon. C'était pas le cochon qu'on connaît dans les porcheries qui est tout rose. Voilà. Mais alors la question qui se pose, Philippe, c'est pourquoi Dieu a cité que le khenzir comme animal domestique proscrit comme chair interdite à l'être humain, c'est-à-dire aux musulmans, en partie à ceux qui sont concernés par le message de l'islam. Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul animal élevé qui est un animal omnivore et carnivore. Par exemple, on élève pour sa chair, je parle pour sa chair. Par exemple, le poulet, le canard, on va élever par exemple du mouton, on va élever des bœufs, des ovins, des bovins. Tous ces animaux sont des herbivores. Donc ceux-là, Dieu n'en parle pas parce que leur chair est halal, puisque leur chair est nourrie de végétaux. Ils se nourrissent de végétaux, de grains, de tout ce qui est naturellement vient de la terre qu'on appelle les végétaux. De l'herbe, du foin, etc., etc. Le seul animal qui lui est à la fois herbivore et carnivore, donc qui est un omnivore et qui est élevé par l'être humain pour sa chair, c'est le cochon. Mais les musulmans en Chine ont le même problème avec le chien, puisque là-bas on élève le chien pour sa chair, du moins dans certains coins, pas partout apparemment. C'est de moins en moins courant. Mais moi j'ai vu encore certaines vidéos, j'ai vu certaines photos où on voit encore des chiens élevés pour leur chair. Eh bien les musulmans qui ne mangent pas de chien là-bas sont confrontés au même problème que les musulmans en France qui ne mangent pas de porc. Mais quand tu dis à un non-musulman, à un français on va dire en guillemets, qui n'adhère pas ni à l'islam ni au judaïsme, mais est-ce que tu manges du chien? Berk, il va te dire berk, mange pas de chien berk. Par contre le cochon, bah non c'est très bon le cochon. C'est bon, ça se mange du museau jusqu'à la queue, en tire-bouchon. Tout se mange chez le cochon. Tout est bon dans le cochon. Tout est bon dans le cochon, du museau jusqu'au tire-bouchon.
Justement, c'est intéressant parce que
pas robuchon, en tire-bouchon.
Je sens que vous allez être drôle, Imam Abdelali. Dans ces cas, je préfère enchaîner.
Bon, ça fait rire un peu, c'est
ça. Ça se fait pas. Est-ce que moi je me moque de vous, Mamoun?
Misgav Mamoun est proscrit lui aussi, Mamoun.
Misgav Arpeled, vous expliquez justement ce slogan dans le livre, tout est bon dans le cochon, d'où ça vient?
Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je crois que l'effet que c'est un animal omnivore est fait que le cochon est un animal formidable pour penser les corps. Or, nous, on insiste sur ce lien entre le corps et les porcs. Et en latin, ça marche très bien, c'est...
Corpus.
Porcus corpus, ok. Donc, corpus pour le corps, porcus pour les cochons. Et en effet, si le cochon est omnivore, nous aussi, nous sommes d'omnivores. Et peut-être cette ressemblance entre nous et les cochons nous dérange. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est à quelle manière la religion trouver des solutions très différentes à ce problème-là, de cette proximité avec les cochons. Donc il y a des religions qui l'interdisent, comme le judaïsme et l'islam, et il y a des religions qui les mangent. Or, manger l'animal, c'est tuer l'animal, transformer sa chair en plat. Voilà, on mange pas des cochons, on mange le porc. Bon, en anglais, ça marche très bien, on mange pas des pigs, on mange pork. Et cette transformation-là signale la distinction entre nous et l'animal. Et il me semble que la raison que la solution si différente de ce problème de la proximité avec l'animal et l'animalité...
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire qu'il modifie le vocabulaire afin de moins en être dégoûté. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « arrête de manger du cochon » ou « comme un cochon », ils vont dire « ils vont manger du porc ». Une côte de porc, c'est pas comme manger...
C'est pas une côte de pig.
Bon, disons que la solution de tuer l'animal est la solution efficace. C'est-à-dire qu'il y a des millions de gens qui les font, mais elle est confrontée à une paradoxe. Okay, c'est en anglais, je l'appellerais « the pig pork paradoxe ». Cette paradoxe que tout est bon dans les cochons, mais l'animal est utilisé et constamment comme référence culturelle à la chose sale, à la sexualité débridée, etc. On peut rappeler Balance ton porc récemment en France, mais en même temps, on fait l'éloge à sa viande et on mange tout. Mm. Et en effet, cet animal qui dévore tout, cet animal, ça sort du monstre des processus de l'intégration, dans le sens qu'elle elle rend tous les. Elle mange tout, elle intègre tout.
Est-ce qu'on sait précisément, Imam Abdelali, pourquoi l'islam interdit la consommation du porc ? Est-ce que c'est pour les raisons que vous avez,
avez données ? Oui, tout à fait, puisque
parce qu'il est omnivore.
Nous avons des références prophétiques. Par exemple, là, j'en ai tout un panel devant moi de hadiths. Si on veut en citer qu'un seul, c'est le hadith rapporté par Ibn Abbas qui dit quoi ? Que le prophète a interdit de consommer tout animal qui a des crocs, c'est-à-dire qui a des crocs dans la bouche, donc qui s'attaque à des animaux, à d'autres animaux. Et tous les animaux qui ont des griffes, puisqu'il y a des animaux, les oiseaux, hein, rapaces, qui eux aussi mangent de la chair, dont la chair, eux aussi, leur chair est interdite. Donc en fin de compte, qu'est-ce que nous dit le Coran ? Il faut manger sain et ne consommer que de la chair qui est nourrie de que de végétaux. Et que les animaux qu'ils ont, qui sont nourris de chair, donc se transmettent les microbes, les maladies, les virus, les bactéries, tout ça.
Ça, c'est, c'est ce que dit le Coran ?
Non, je te dis, le Coran nous proscrit, le Coran, je dis bien, nous proscrit la viande de porc. Et nous proscrit tous les animaux, et ça c'est le hadith, il nous proscrit tous les animaux qui ont des crocs ou qui ont des cerfs. Parce que le prophète, le terme carnivore n'existant pas, eh bien il a utilisé un autre vocabulaire. Il a dit « kullu dhinabin wa mikhlab ». Les mikhlab, c'est-à-dire les griffes. Les griffes, donc les griffes, c'est pour faire quoi ? C'est pas pour aller faucher le blé et manger de l'herbe. C'est pour attaquer d'autres animaux et manger d'autres animaux. Donc le Coran et la Sunna nous interdisent de consommer des animaux qui sont carnivores ou omnivores. Alors la question, c'est pourquoi alors le porc est-il cité précisément ? Ben, tout simplement parce que parmi tous ces animaux carnivores ou omnivores, le seul qui a été élevé par l'homme, c'est le cochon.
J'ai une autre explication.
Pour sa viande, hein. Il était élevé pour sa viande.
J'ai une autre explication de l'historien. Je dirais que quand l'islam naît au 7e siècle, les cochons déjà est un symbole des frontières très importants entre juifs et chrétiens. Et en effet, quand on regarde bien cet paragraphe ou le coranique, qui interdit le porc, qui répète une version un peu différente 4 fois, il ressemble beaucoup à un passage dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, dans lequel il s'agit quels sont les interdits qu'un non-juif qui croit en Jésus doit respecter. Et en effet, la seule différence importante entre la liste interdite entre l'acte des apôtres et les Corans, et les cochons. Donc, au 7e siècle, les cochons ne distinguent pas les juifs, évidemment, et les chrétiens, mais les musulmans et les chrétiens. Et c'est un passage permissif, c'est-à-dire qui veut dire l'islam, ce n'est pas une religion d'interdit. C'est une religion qui permet la plupart des aliments, mais qui interdit très peu. Et donc, comme le christianisme dans l'acte des apôtres, mais qui insiste sur cet animal. Et pour moi, il insiste pour faire démarcation avec le christianisme.
Cochon, l'interdit ultime, on en parle aujourd'hui dans Speak Uni jusqu'à 11h sur Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant.
Et
10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, cochon interdit ultime, on en parle aujourd'hui avec notre invité qui s'appelle Miviav Harpeled, historien et co-auteur d'un livre « Faut-il manger du cochon pour être français ?» Avec nous sur ce plateau, Yassine Ilmi et l'imam Abdelali Mamoun. Est-ce qu'il faut vraiment manger tous de la même chose pour faire partie de la même société, Miss Gav?
Non. Et en effet, le moment où on pose cette question, donc le début du XXIe siècle, on vit un changement très important des manières de manger. On vit les passages d'une société qui a mangé plutôt partager les mêmes plats à une société des mangeurs individualisés où on mange dimanche chinois, lundi tacos, mercredi couscous. Et donc cette mondialisation et diversification de notre
alimentation
fait que cette question-là est un peu déplacée.
Est-ce que vous pensez que on est plus tolérant face à la au comportement culinaire de l'autre ou pas? Parce que moi je le ressens en tout cas dans la société aujourd'hui. Quand vous êtes à table dans un déjeuner professionnel, c'est-à-dire que l'autre va pas forcément faire attention à ce que vous mangez. Si vous prenez un plat végétarien, par exemple,
moi je voudrais répondre à cette question.
En face de vous, la personne ou la personne qui est avec vous, elle
sera pas choquée. Quand il s'agit d'une prescription religieuse musulmane, forcément il y a hostilité. Mais par contre, si l'interdit est motivé par le fait que la personne est végétarienne ou végétalienne ou tout simplement parce qu'elle aime pas la viande, eh bien là, il n'y aura pas de problème, c'est toléré à 100%. Mais à partir du moment où c'est parce que c'est l'islam, tout de suite, c'est allez, la laïcité, on nous rabâche la laïcité. Et qu'au nom de la laïcité, on ne fera pas de différence dans le plat. Il y a même un enfant là, qui a été exclu de la cantine, dans quelle ville là, dans un patelin, parce qu'il a refusé qu'on lui mette de la viande dans son assiette. Alors que le gars, il n'a pas demandé même pas de plat de substitution. Il a simplement dit, mettez-moi que du légume, mettez-moi pas la viande. Et bien rien que pour ça, le maire a décrété une exclusion.
Oui, ça reste une minorité des cas exceptionnels.
N'empêche qu'on l'utilise encore trop souvent aujourd'hui.
Oui. Non, je dirais, il y a des recherches qui vont dans le sens... de cette sens-là, qui montre qu'en France, on est beaucoup plus tolérant quand il s'agit d'interdits individuels et pas religieux. Je ne sais pas seulement l'islam, mais comme l'islam est la minorité religieuse la plus importante numériquement en France.
Parce que, rassurez-moi, les juifs ne mangent pas de porc non plus.
Oui, mais un des grands changements aujourd'hui, c'est que ce débat de la religion et de l'intégration se focalise sur les musulmans et pas sur les autres minorités en France.
Donc, quand on demande aux musulmans de manger du cochon, on ne le demande pas aux juifs, c'est ça?
On demande aussi aux juifs, mais numériquement.
Je ne comprends pas, en fait.
Non, je dis... Si, ces gens-là qui demandent...
Voilà, vous expliquez que le débat, maintenant, revient en France. Hein, comment est-ce que le débat est revenu sur les devants de la scène en France?
Il y a des processus parallèles. En grand, depuis l'année 2000, d'un côté, l'importance des porcs est sous plus d'importance au sein de la communauté musulmane, au sein d'une minorité dans la communauté musulmane. Et en même temps, il est devenu un étendard de l'extrême droite. Je rappelle l'action des blocs identitaires en 2004, les soupes aux cochons, donc des soupes organisées ici à Paris qui avaient des porcs pour exclure exactement les musulmans et les juifs. Et l'organisation de l'apéro saucisson pinard en 2010, à Goutte d'Or, oui. Les marches des cochons à Lyon, la même année. Donc une série d'actions politiques.
Puis les têtes de porc dans les lieux de culte.
Voilà, les profanations de mosquées.
Oui, alors il y a, et on part dans notre livre écrit avec David Nadjari, Le complexe du cochon, un chapitre entier où on parle exactement sur cette série des violences, des profanations des mosquées avec du porc. Et on a recensé en effet plus de 70 cas pendant moins de 10 ans. Mm-hmm. Donc c'est peut aller de la tête des
sangliers. 70 profanations avec du porc,
au moins,
de mosquées,
au moins.
En 10 ans. 70.
Au moins, il y a des années qu'on arrivait, je crois, à les 15 cas recensés. C'est possible qu'il y avait plus de cas.
Mmh. Et alors, tête de porc et sang de porc. Hein.
Ça peut être des sangs de porc, ça peut être des lardons, ça peut être matière porcine différente. Et en effet, ce livre est né après l'attentat de 2015. Oui. Quand on avoue que dans cette les vagues des violences anti-musulmanes qui a suivi ces jours-là de Je suis Charlie, il y avait plusieurs cas de profanation des mosquées avec du porc. Et donc, ce travail-là a commencé avec cet acte-là hein, qui nous appelait, qui nous interrogeait. Pourquoi ?
Mmh. Et qu'est-ce qui symbolise ces actes alors ?
Ça, il faut demander les gens qui les font, mais pendant trois chapitres, on suit cette, on peut dire, la fièvre porcine de l'extrême droite. Et si l'extrême droite a pris cette symbole du porc, parce qu'il est. Il n'accepte pas seulement les modèles d'intégration, que je rappelle un mot qui était adopté comme la politique étatique en 1989, mais aussi les termes ou l'idée de l'assimilation. Ces groupes-là pensent de la théorie de la grand remplacement, de la réalisation de la France.
Oui, mais attendez, excusez-moi, professeur. Oui. Mais ce qui m'étonne, c'est que nous, musulmans, et vous, juifs, avec nous, on n'a jamais interdit aux chrétiens ou à ces nationalistes de manger du porc. On n'a jamais eu de campagne dans laquelle on encourage les Français à ne plus manger de porc, ou les dissuader de consommer des produits dont qui sont fabriqués avec du porc. On n'a jamais eu une attitude dans laquelle on a voulu dénaturer le Français qui avait envie de manger du cochon de ne plus en manger. Pourquoi cette rage en voulant à coûte que coûte nous imposer à manger du porc alors que nous on leur a pas interdit de manger du porc. On n'a jamais.
C'est une minorité.
Et chacun il bouffe ce qu'il veut dans la vie.
C'est une très petite minorité en France. La plupart des Français, en effet, manger ou ne pas manger de porc, mais c'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant de voir, et il y a des sondages qui les montrent, que depuis 2004, on voit que plus en plus de Français pensent que ne pas manger de porc pose un problème pour la vie en société. Et en effet, dernier nombre part sur un Français sur trois, un Français sur quatre.
Mais tous ces végétariens, ils n'ont pas de problème, les végétariens.
Non.
Les végétaliens, ceux qui s'interdisent de manger du porc au nom d'une certaine forme, conception de l'écologie, parce qu'ils pensent que c'est l'élevage aujourd'hui bovin, etc., qui crée la couche d'ozone, etc., et qui considèrent que voilà, que la meilleure manière, la manière plus saine pour le corps humain et pour la société, c'est d'arrêter de manger de la viande, de toutes les viandes.
Alors, est-ce que ça veut dire que c'est comme ça que se fabrique l'opinion publique ? En imposant des thématiques dans le débat, et finalement, on se rend compte que ces thématiques, elles trouvent de plus en plus d'écho, même si elles sont minoritaires, eh bien, les gens les écoutent.
Je crois que oui, mais il faut comprendre que ce processus-là, disons de l'obsession avec les porcs, était un processus de sorte de symbiose entre l'extrême droite d'un côté et une partie intégriste dans le sein de la communauté musulmane. Cet interdit, qui était un interdit surtout culturel pour la plupart des musulmans en France, est devenu pour une minorité une vraie phobie, c'est comme une porcophobie, une importance que cet interdit n'avait pas ni dans la religion, disons, traditionnelle, ni dans la théologie musulmane. Or, ce n'est pas seulement, pour certains gens, un rejet du porc, de l'aliment, mais tout ce qu'il représente, c'est-à-dire l'hédonisme, la corruption morale, et pour certains, la société occidentale. Donc, c'est, on peut dire, une vision complètement caricaturelle de la société française est commune pour les deux partis extrêmes, pour l'extrême droite et certains intégristes au sein de la communauté musulmane, qui sont d'accord les deux, qui pour être français il faut manger du porc, une chose que je crois qui ne passe pas dans la tête de la plupart des Français. Et autre chose, pas seulement ça, qui est la nature même des Français, la nature porcine. Que pour être français, il faut être hédoniste, avec de vie sexuelle, débridée, etc.
Donc c'est une conception particulière de l'identité que se font certaines personnes du français, et qui est totalement erroné, puisqu'aujourd'hui, on a une véritable France très, très, très hétérogène, très multiculturelle, très multi...
Mais il y a quand même une majorité qui mange du cochon.
Convictionnelle, hein ?
Il y a quand même une majorité de Français qui mangent du cochon.
Bien sûr, mais on n'a pas dit contraire. Mais on a aujourd'hui ce phénomène de plus en plus, on va dire, en recrudescence, qui est devenu une mode, c'est le fait de ne pas manger de viande. Ça ne veut pas dire que c'est des bouddhistes. Ouais. Mais parce qu'il y a un phénomène... Et ceux-là, on n'en parle même pas. C'est-à-dire qu'on ne va même pas du tout leur dire « Ouais, vous n'êtes pas des bons Français, ou vous n'êtes pas des bons vivants, vous n'êtes pas ceci, cela. » Il y en a même qui vont carrément dire « Ah oui, c'est vrai que c'est des militants pour une bonne cause qui s'appelle l'écologie. » On va même les éloger, on va dire « Ah, ceux-là, ils font des sacrifices pour préserver la nature et préserver la couche d'ozone. »
Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'on reproche aux musulmans dans cette affaire, finalement ?
C'est une excellente question. Je crois que la question, les débats sur l'intégration des musulmans en France, malheureusement, focalisent sur les symboles. Or, il y a aussi des musulmans qui voulaient, de manière essentialiste, et donnent d'importance aux symboles et pas aux autres choses. Mais en effet, tous ces débats-là, on peut dire, canalisent. C'est une projection de autres problèmes. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, n'est pas un problème d'intégration. La plupart des musulmans, non-musulmans en France, s'intègrent bien, si on regarde au moins les manières officielles de la définition de l'intégration. Et la question est plutôt l'intégration de ce village gaulois, de la France, dans le village global. Et le vrai problème qui est commun aux jeunes qui devient intégriste, gens français qui devient intégriste et qui part pour faire le djihad avec Daesh, et aux jeunes français qui joindre bloc identitaire, les problèmes, ils vivent dans le même pays, ils ont des problèmes communs, et un des grands problèmes qu'ils ont, c'est comment intégrer, en effet, dans la société actuelle, une société de changement perpétuel. Or, il y a un malaise général de la société, un malaise d'un passage de la France à une nouvelle étape de la modernité, c'est que beaucoup appellent la modernité liquide, une modernité dans laquelle tout change dans un rythme sans précédent.
Bien, Yacine, quelle est la citation du jour ?
Ah, bah, vous me prenez au dépourvu.
J'ai cru que vous aviez trouvé une citation sur le jambon, Yacine.
Voilà, y en a plein, on avait dit tout est bon dans le cochon, mais j'en ai une, mais à méditer. Ce que j'ai trouvé, c'est cochon emprunté grogne toute l'année.
Alors, cochon emprunté.
Ouais, vous êtes tendu une page de publicité pour méditer sur cette citation. Je rappelle que tout à l'heure, on aura le grand quiz des religions, Yacine, rassurez-moi.
Oui, effectivement.
Bien, cochon, l'interdit ultime sur Speak Uni jusqu'à 11h, ce Beurre FM.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
La cochon interdit ultime, on en parle aujourd'hui au regard et à la lueur de la sortie d'un livre, Faut-il manger du jambon pour être français, aux éditions Hermann. Donc c'est un livre qui a été coécrit par David Nadjari, qui n'est pas là ce soir, mais nous avons le co-auteur Miss Gav Arpeled. Donc vous vivez au Mexique aujourd'hui ?
C'est ça.
Où ça, précisément ?
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, à côté des frontières avec Guatemala.
Bien. Mm-hmm. Et vous êtes israélien.
C'est pas là-bas où on a une communauté musulmane, là, une fois j'ai entendu parler.
On a
des communautés, d'ailleurs, là-bas.
On a trois mosquées. J'imagine déjà les divisions entre les petites communautés musulmanes, et qui est très intéressant. La plupart, c'est d'indigènes des Mayas, Tzotzil, qui convertit à l'islam. Et d'ailleurs, c'est une ville très intéressante, d'environ 200 000 habitants, avec trois mosquées, un synagogue et un temple bouddhiste. Ne parlons pas de la dizaine d'églises, de courants différents.
On a fait une émission il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, sur le sujet.
Ah oui, ce que je voulais rebondir, c'est sur cette idée reçue que pas mal de gens se font, qui pensent que l'islam a proscrit et interdit le porc, parce qu'il y aurait dans le porc une partie qui serait, on va dire, néfaste ou nocive ou interdite, purement et simplement. Et parce que comme on ignore quelle est cette partie, eh bien, le code aurait donc proscrit toute
l'intégralité
du cochon. Tout cela, bien sûr, est une idée reçue, fausse. Il y a même l'autre idée qui dit que si le porc est proscrit, c'est parce qu'il ne se conserve pas ou mal. Et que quand on par exemple, le veau ou le mouton, quand on pratiquait le tashriq, c'est-à-dire l'exposition au soleil de manière à que la chair se devienne sèche, et donc on pouvait grâce à cela la conserver plus longtemps, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de frigo, hein, il n'y avait pas les congélateurs qu'on a aujourd'hui, et que le cochon ne pouvant pas se conserver au soleil, puisqu'il pourrissait rapidement, eh bien, l'islam l'aurait interdit. C'est bien là aussi une idée fausse, et ça n'a rien à voir avec la réalité. Je répète, la raison pourquoi l'islam, ou du moins Dieu dans le Coran, et le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ont proscrit la consommation du porc, c'est parce que, tout simplement, il fait partie de cet ensemble d'animaux carnivores et omnivores que l'islam a aussi proscrit. C'est-à-dire l'ours, le renard, les animaux, les félins, le chien, tous les carnassiers, le loup,
mais qui
etc.
ne sont pas nommés.
Mais qui sont pas nommés. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas nommés? Parce qu'ils ne sont pas élevés. Pardon. Pour leur chair. Il y a pas d'élevage de loup ou d'ours pour leur chair. Par contre, le sanglier qui est animal, comme je disais, est un animal omnivore comme l'ours, par exemple. Ce sanglier-là qui deviendra le cochon parce qu'il est élevé. Eh bien, lui est proscrit parce que l'homme, à l'époque du prophète, avait commencé déjà, depuis longtemps, à l'élever pour sa chair, alors que c'est un animal carnivore ou omnivore. Et les autres, on en parle de manière globale dans le hadith que je viens de citer, mais il y en a plusieurs, où Dieu, ou le prophète, s'est proscrit et interdit la consommation d'animaux carnivores, qu'il appelle, lui, des animaux avec des crocs et des cerfs, puisque le mot carnivore n'existant pas. À l'époque.
Bien, alors Misgav, l'interdit chez les juifs vient d'où?
C'est ma question, et on ne va jamais avoir une réponse. Et en effet, c'est une sorte de fausse question. Quelle est l'origine? Or, la question, comme si la religion soit immobile, comme si le moment que le texte était écrit... l'animal est interdit, donc la religion n'est pas changée. Or, c'est évidemment pas le cas. Il n'y a pas une tradition qui ne change pas constamment, même si la tradition, souvent, on a tendance de présenter leur changement comme un retour à la tradition. Et c'est qu'on sait que l'entrée de porc n'était pas seulement juif dans le monde antique, donc les troisièmes millénaires avant l'ère chrétienne. Et on sait que les Phéniciens, les Syriens, donc d'autres peuples des Proche-Orient, ont certains cultes au moins, les respectaient. Et il y avait même des cultes en grec, aux Romains, qui respectaient cet interdit au moins pour certaines divinités dans certains moments de l'année. Et on sait aussi des sources avant l'islam que les interdits de porc étaient respectés en Arabie Saoudite, c'est-à-dire dans le péninsule arabique.
Je crois même qu'en Éthiopie, des chrétiens ne mangent pas. Il y a certains chrétiens qui ne mangent pas de porc.
Oui, mais c'est pas forcément dire des raisons, dire l'origine. L'histoire très ancienne, ça pourrait être aussi des raisons des traditions, dire de
culturelles.
Culturelles, voilà, et pas forcément. Et souvent, peut-être aussi, des raisons que la tradition avait nous, après, expliqué et transformé en un interdit officiel. Mais en effet, d'interdit qui existait bien avant.
Oui.
En fait, moi, ce que je pense par rapport au contexte français. Aujourd'hui, la question du cochon, il y a un modèle économique autour du cochon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans l'économie française, la question des salaisons dans les campagnes. Du coup, je pense que c'est pour ça que c'est un sujet assez sensible.
Quand on parle de kilos de porc, de viande de porc, on est pratiquement au double quand on va parler du veau ou du
oh bah, plus que ça,
plus qu'au double, voilà.
Oui.
Je crois que c'est 3 euros ou 4 euros le kilo de cochon.
Mais aujourd'hui, le cochon français, il s'exporte dans le monde entier. Mais en fait, ce que je veux dire simplement, c'est que c'est un sujet qui tient à cœur, on va dire, les Français. Et le fait que certains n'en mangent pas ou soient en opposition avec ça, c'est un peu... peut-être qu'ils le prennent comme une agression. Je me fais l'avocat du diable, hein, mais j'essaie de comprendre.
Je ne crois pas que c'est la raison. Je crois pas que la raison est économique. Je crois qu'il y a une très longue histoire et qu'on a pas mal à comprendre parce que la France aujourd'hui est un pays laïque. La majorité des Français sont laïques et les pratiques catholiques sont relativement faibles.
Que vous appelez laïque, c'est-à-dire athée.
Oui. Sans
parce pratique. Que moi je me sens aussi laïque hein. Je ne cache pas que moi, la laïcité pratique. De la loi 1905, moi j'y adhère à 100%.
Mais je veux dire avec très peu de pratiques religieuses, voilà. Mais en effet la très longue histoire et comme j'ai dit avant les manger ou ne pas manger le porc devenu une manière de distinguer entre les juifs et les chrétiens. Donc il y a le livre magnifique d'anthropologue française Claudine Vassas, les bêtes singulières, les juifs, les chrétiens et les cochons, où elle a montré à quelle mesure dans le folklore français et européen en général, manger et tuer les porcs était une manière de tuer, disons, les côtés mâles associés aux juifs, de séparer entre notre racine juive, on peut dire, et notre chrétiennité pure. Donc il y a une très très longue histoire et il y avait des rituels autour de ça dans le folklore européen, le folklore chrétien, depuis plus ou moins des croisades, et cette question-là de l'entrée du porc et la polémique avec l'islam était aussi importante. Par exemple, il y avait des textes au Moyen-Âge qui expliquaient exactement l'origine de cet interdit-là, pourquoi les musulmans ont interdit le porc, et qui a dit que on a fait les prophètes un jour, bon, il y a une version différente, mais une version dit qu'il était ivre, autre qu'il était empoisonné, et qu'il a perdu la connaissance, était dévoré par des cochons, donc les musulmans ne mangent pas du porc. Autre légende disait que les juifs ne mangent pas les porcs parce que Jésus a transformé des enfants juifs en cochons. Donc c'est une très très longue polémique. Mais aujourd'hui...
Il faut expliquer qu'au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de livres qui étaient soit judéophobes ou soit islamophobes.
Non, mais je crois qu'il faut arrêter de parler sur les anti... les anti dans ce contexte-là. En effet, il y a le triangle monothéiste aux dimensions, au moins depuis le Moyen-Âge, être juif, chrétien, musulman, et être et ne pas être les deux autres. Ça veut dire c'est une négation et affirmation constante. Ces trois religions croient dans le même Dieu. Ces trois religions en imaginaire abrahamique, d'une généalogie qui descend d'Abraham. Ce n'est pas une question de la négation. La négation de l'autre, on peut dire que c'est une tendance qui existe dans toute l'humanité, quand on rencontre l'autre. Mais c'est une question des liens entre les trois.
Moi, j'aimerais savoir, dans le judaïsme, c'est quel texte qui interdit le cochon ?
Alors,
c'est la Torah ?
Dans l'Ancien Testament, dans la Torah, ça apparaît des fois. Il y a des textes dans la liste des animaux interdits. Ce qui est important, c'est que les cochons est mentionné dans une liste d'un grand nombre des animaux.
Mais c'est la parole de Dieu ou c'est la parole de Moïse?
C'est non, la parole de Dieu. C'est-à-dire, Moïse, il transmet les paroles de Dieu, mais c'est les paroles de Dieu.
Mm-hmm. Allez, Yacine, le grand quiz des religions et tout de suite la première question. Alors, on vous explique, vous poser une question et celui qui répond le plus rapidement marque un point. Celui qui a le plus de points gagne une fabuleuse... Une fabuleuse
Philippe,
poupée Chifa. J'ai très envie d'une poupée Chifa.
Est-ce qu'il connaît les réponses et les questions, Philippe ?
Il ne connaît pas les questions.
Jamais.
Donc, il peut participer au jeu.
Oui.
Voilà.
Bon. Très bien. Bon, ça va être simple. On va commencer par simple. Il faut aller vite pour répondre. Parce que l'imam, il ne se laisse pas faire.
Direct.
Comment appelle-t-on le mâle de cochon mâle ?
Le porc.
Non.
La truie.
Non, ça, c'est la femelle. La truie.
Ah, le cochon mâle ?
Oui.
Le petit, moi je le connais, le petit
qui
s'appelle... Ça commence par un G.
Le goré.
Ouais, wow, un point pour l'imam.
Ah, le goré.
Bien, allez, je préfère qu'on enchaîne sur la deuxième question, le goré.
Je pensais que le goré c'était petit cochon.
Il y a aussi le petit cochon, qu'on appelle goré ou cochonnet, effectivement.
Voilà, d'accord.
Cochonnet,
c'est pour la pétanque.
Je suis un roi de France qui a signé un édit interdisant la divagation des cochons dans les rues. Car son fils est mort suite à une chute à cause d'eux en date du 13 octobre 1131.
Ah, Saint-Louis
Ce n'est pas Macron.
Ah, ce n'est pas Macron.
Alors, c'est un Henri.
Ce n'est pas un Henri.
C'est un François.
Est-ce que
12e siècle.
XIIe siècle.
Non, c'est un...
Ah, y a Charles.
Non, c'est pas un Henri. Au XIIe siècle, c'est pas un Henri, c'est pas un Charles, c'est pas un François, c'est un Philippe.
Non, c'est un Louis.
C'est un Louis.
Louis.
Allez, dépêchez-vous.
Louis IV, Louis V, Louis VI. Louis VII.
Louis XI.
Louis VI dit le gros ou le batailleur.
En fait, ce qui s'est passé,
c'est que son fils Philippe de France se déplace dans les rues de Paris, chevauchant son fier destrier, quand soudain un cochon domestique se met devant lui, et paf, le prince tombe de son cheval, la tête la première, et le cochon, non content d'avoir fait tomber le roi, le piétine.
Et paf, le roi.
Bon. Il est mort.
Ah, il est mort, le fils. Du roi.
Oui.
Je comprends maintenant.
Bon, et c'est pour ça que Louis VI dit le gros.
Les cochons, lui, à cause de ça.
il a fait un édit interdisant le passage des cochons dans les rues. Ouais, dans les rues.
De laisser. Voilà.
Et c'est l'imam qui marque un deuxième point.
Bon, c'est trop. Franchement, je lui donne pas ce point-là.
D'accord.
Allez, il nous a fait Louis 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je m'éloigne trop de notre.
Non, non, du tout.
Notre invité, vas-y.
Je vous ai trop aidé. Donc là, je suis un porcin sauvage qui mesure entre 1m60 de long
Marcassin.
Et 60 à 80 cm au garrot. Je pèse jusqu'à 100 kg. Je suis aussi le Pumba dans un personnage de fiction, le Roi Lion. J'ai une longue crinière sur le haut du dos de défense.
Le facochère.
Bon point pour notre ami Philippe. Je suis le facochère, effectivement. Le facochère.
Bien, Yacine, allez.
Comment appelle-t-on la femelle élevée pour la reproduction de cochon?
La lait.
Non.
La truie.
Non.
C'est pas la lait.
Alors.
C'est comme dans le cochon, forcément.
Tout est bon dans le cochon.
Ouais,
la femelle. La femelle
qui est élevée pour la reproduction.
On n'a pas fait bac. Ah, si, je sais. La blaire, la.
La cochonne. Non, fraise.
c'est pas une cochonnerie, ça, encore. Ça.
La cochette.
Jamais entendu ce nom-là. La cochette. Oh non. J'en avais encore une.
La dernière en 30 secondes. Ouais. Quel est le légume que le cochon est utilisé pour. Enfin, on utilise le cochon pour son flair. Pour pouvoir déceler ce...
La truffe.
Ah non, mais c'est pas...
Moi,
je l'avais, moi, mais je voulais lui laisser...
Ah, vous l'aviez, imam?
Le cochon peut être utilisé pour son flair dans la recherche des...
On n'aime pas trop l'utiliser parce qu'il a tendance à bouffer, justement, la truffe.
La truffe.
Et alors que, parce qu'il est végétarien, lui aussi. Alors que quand tu utilises le chien, qui, lui, n'est que carnassier, carnivore, bien, ça... le chien ne mange pas la truffe. Mais il a un flair moins aiguisé que celui
que le cochon. Ouais. Intéressant. Miss Gav Harpelet, je rappelle le titre de votre livre que vous avez coécrit avec David Nadjari. Donc c'est Faut-il manger du cochon pour être français?
Non, du jambon.
Du jambon, pardon. Ouais,
le complexe du cochon, faut-il manger du jambon pour être français?
C'est ça. Bien.
Ouais.
Les questions restent entières.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci de vous être arrêté sur Beurre FM. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur Beurre FM et l'appli Beurre FM.